On va voir essentiellement deux choses aujourd'hui qui sont la citation et ce qu'on appelle les barrières d'abstraction. Donc la citation, vous allez le voir, c'est une nouvelle forme spéciale qui existe en Scheme et ça sera la dernière que vous verrez dans le restant de ce cours. Et la notion de barrière d'abstraction est un principe d'une certaine manière de conception que vous allez retrouver dans tous les langages et dans tous les programmes que vous aurez à manipuler dans les années qui viennent et qui consiste en fait à essayer de diviser pour régner, c'est-à-dire de faire des zones particulières où on développe ayant le moins de connexions possibles avec d'autres zones de manière à limiter les problèmes, je dirais, de cohérence. Et donc c'est un principe de conception de programme que vous retrouverez vraiment partout. Alors commençons par la citation. Et commençons par remarquer en fait que lorsque vous avez écrit du Scheme, vous avez pu vous rendre compte que vous utilisiez les parenthèses avec deux acceptations différentes. La première, c'est que vous écriviez des applications fonctionnelles, c'est-à-dire fonctions appliquées à arguments, avec des parenthèses. Mais vous êtes rendu compte aussi que vous écriviez aussi des définitions, que vous écriviez aussi des formes spéciales, et qu'en fait, les parenthèses servaient aussi, lorsque des calculs étaient faits, à imprimer les valeurs résistantes, les valeurs résultantes. Et donc, le problème, c'est que lorsque vous écrivez quelque chose comme par exemple ceci, 1, 2, 3, ceci est une liste de nombres, sans aucun problème, mais lorsque vous écrivez, ABC, ceci est une liste qu'on appelle techniquement une liste de symboles, et a priori, vous la concevez comme une donnée exactement comme toute autre chose. Mais si simplement je varie le nom des objets qui sont dedans et que j'écris par exemple cons, car, couleur, là, je commence à me poser un problème qui est cette chose-là que je viens de dessiner, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un programme ou est-ce que c'est une donnée exactement au même niveau que ABC? Et vous voyez qu'en fait, je suis passé de là à là en changeant la nature des choses, c'est-à-dire en passant de nombre à symbole, et je suis passé de ici à ici en changeant simplement le nom des symboles. Or, s'il paraît évident que ceci est une donnée, ça, c'est moins évident, est-ce que c'est une donnée ou est-ce que c'est un programme? Et là se pose en fait une ambiguïté. Alors, la raison de cette ambiguïté, c'est qu'en Scheme, il a été décidé en fait dans les années 1959, dans le langage qui précédait Scheme et qui s'appelait Lisp, d'écrire les programmes sous forme de données. C'est-à-dire que parmi toutes les données manipulées, vous avez vu des listes avec des parenthèses, et il a été décidé donc d'écrire les programmes sous forme de ce qu'on appelle des S-expressions, c'est-à-dire des expressions symboliques. Et les expressions symboliques, c'est simplement des choses qui sont bien parenthésées, point. C'est-à-dire la seule chose qu'on exprime, que l'on exige des expressions symboliques, c'est qu'elles soient bien parenthésées. Donc on a décidé de représenter les programmes comme des expressions bien parenthésées. Mais ce faisant, maintenant, on a un problème d'interprétation qui est que ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une donnée? Est-ce que c'est un programme? Comme tous les programmes sont représentés par des S-expressions et que toutes les expressions sont des données, alors il existe en fait un sous-ensemble des données qui sont aussi des programmes. C'est ceux, bien sûr, dans lesquels on a immergé les programmes. Donc en fait, tout dépend du contexte. Si vous êtes dans un contexte où l'évaluateur Scheme que vous avez demande un programme, quand vous lui tapez quelque chose, vous lui donnez en fait une chose qui est une donnée, mais qui va essayer de considérer comme étant un programme. Si vous lui donnez ce programme-là, il va le calculer sans aucun problème. Si vous lui donnez ce programme-là, il va vous dire « ce programme-là n'est pas un programme parce que 1 n'est pas une fonction et je ne peux pas appliquer 1 sur les arguments 2 et 3 ». Donc en fait, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que si tous les programmes sont des données, toutes les données ne sont pas des programmes, et seules des données qui ont une certaine caractéristique peuvent être considérées comme des programmes. Alors maintenant se pose le second problème qui est de dire, mais oui, mais si maintenant j'avais envie, pour une raison ou pour une autre, de faire apparaître des données à l'intérieur de programmes, comme les programmes sont représentés comme des données, comment puis-je distinguer les vraies données des éléments qui l'entourent et qui sont des programmes? Et donc là, on a un problème qui est spécifique à Scheme et qui est de dire, eh bien, il me faut un mécanisme qui peut me permettre de dire, attendez, ceci est un programme et ceci est une donnée, de manière à ce que l'évaluateur n'ait pas de problème d'ambiguïté et sache reconnaître l'un de l'autre. Alors, ce problème est un problème que vous retrouvez dans tous les langages de programmation, mais en général, de façon plus simple, parce que les autres langages de programmation n'ont pas des structures de données aussi élaborées que Scheme. Et dans la plupart des langages de programmation, vous avez les nombres, vous avez les caractères, vous avez les chaînes de caractères, mais au-delà de ça, il n'y a pratiquement rien d'autre comme structure de données, je dirais, immédiate. En Scheme, on a toutes les données qu'on peut écrire avec des parenthèses, et donc on en a des paquets, et elles sont très élaborées. Donc l'idée, en fait, est de dire, vous voyez qu'ici j'ai représenté une expression, que ici j'ai représenté la valeur de l'expression, et qu'il y a une différence entre l'expression et sa valeur. C'est-à-dire que ce que l'on note généralement par une flèche, qui consiste à dire, par exemple, cette valeur-ci est obtenue par le programme list 1, 2, plus 2, 1, ça, comment dire, a pour valeur la liste 1, 2, 3, et ce symbole-là, donc la flèche, veut dire a pour valeur. Vous verrez que dans tout le courant de ce cours, j'utiliserai deux symboles qui est ce symbole-ci pour a pour valeur, et j'utiliserai un autre symbole qui est le symbole d'équivalence, donc on désigne en général par trois traits superposés, et par exemple, ce programme-ci est analogue au programme cons 1, 2, list 2, plus 2, 1. Et j'ai oublié une parenthèse. Et donc on voit bien que ce programme-ci, en fait, est exactement équivalent à ce programme-là. Et lorsque deux programmes sont équivalents, il est évident, bien sûr, qu'ils ont la même valeur lorsqu'on les évalue l'un ou l'autre. Donc j'utiliserai dans tout le reste du cours ce symbole-là pour A pour valeur et ce symbole-ci pour dire est équivalent à. Et vous remarquerez qu'effectivement, les deux choses représentent absolument pas le même concept puisque la relation de programmes équivalents est une relation d'équivalence alors que la relation ici A pour valeur n'est absolument pas une relation d'équivalence. Il n'y a pas de notion de transitivité. Un programme a pour valeur quelque chose, et ce quelque chose n'est pas forcément un programme. Donc il n'y a pas de transitivité là-dessus. Donc voilà maintenant ma question, c'est que j'aimerais, dans le contexte des programmes, pouvoir parler de certaines valeurs particulières. Par exemple, vous voyez que quand j'ai besoin de parler de la liste 1, 2, 3, je suis obligé actuellement pour dire, par exemple, si on me demande... Essayez de faire une fonction qui prend un unique argument qu'on va appeler L et qui teste si oui ou non son argument est égal à la liste 1, 2, 3. Eh bien actuellement, la seule façon que vous ayez de faire ça, c'est de construire la liste 1, 2, 3 puis ensuite de faire equal pour comparer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de la liste 1, 2, 3 sans en fait passer par un programme qui l'a construit. Donc l'idée en fait est de dire, ça serait bien que l'on ait un mécanisme qui permet de parler de la liste 1, 2, 3 de manière simple. Eh bien, ce mécanisme existe, et c'est un mécanisme dit de citation. Alors, la citation au sens français, quand vous faites une citation, vous prenez un morceau du code de quelqu'un d'autre, que ce soit Victor Hugo, Proust ou autre, vous prenez un morceau de phrase, et vous le citez en disant, Victor Hugo a dit, etc., etc. Et en général, la citation s'accompagne de guillemets particuliers en français, qui sont les guillemets de citation. Donc une citation en français utilise des guillemets français, et puis là vous mettez la phrase et vous terminez vos guillemets français. Bien, donc ça c'est le mécanisme de citation. Le mécanisme de citation dit en fait, ce petit symbole-là dit, un tel a dit exactement ceci. Et en principe, quand vous faites une citation juste, vous devez mettre entre les crochets de citation exactement ce qui se passe. C'est-à-dire exactement ce qui a été écrit. Vous faites une citation, c'est-à-dire une copie conforme. Maintenant, les guillemets sont utilisés aussi pour pouvoir parler de la forme extérieure d'une idée. Par exemple, il y a un jeu que vous connaissez peut-être, qui consiste à chercher des adjectifs qui sont représentatifs d'eux-mêmes. Par exemple, donnant des exemples, court et court, mais incommensurable est incommensurable. Pourquoi ? Parce que court est un adjectif très court, il ne fait que 5 lettres environ, et incommensurable est un adjectif très long, et vous essayez de le qualifier. Par contre, grand n'est pas grand, parce que c'est un mot relativement court, par contre, infiniment petit n'est pas infiniment petit. Alors, quand je parle de ça et que je parle de ce jeu-là, vous voyez bien en fait que si j'avais à transcrire par écrit ce genre de truc, je serais obligé d'écrire des choses de ce genre-là. Comme par exemple, j'écrirais « court » et « court ». Et ce faisant, en fait, lorsque je utilise les guillemets de citation ici, je ne m'intéresse pas ici au sens du mot, je m'intéresse à sa forme, à sa représentation. Ça veut dire le mot court, indépendamment de son sens, est court. Par contre, là, j'utilise le sens du mot court. Exactement comme si je mettais incommensurable est incommensurable, je mettrais en fait le premier mot incommensurable entre guillemets pour dire, voyez bien ce mot-là, je parle de sa forme, de sa représentation, mais non pas de son sens. Et les guillemets en fait permettent de dire, là je fais une citation, la chose qui est là, indépendamment de ce qu'elle est courte. Donc voyez la différence qu'il y a effectivement entre l'adjectif et l'adjectif pris au sens d'un mot quelconque, où là je dis le mot court est court. Bien, eh bien, j'ai à peu près ce même mécanisme-là en scheme avec le mécanisme de citation. À un moment donné, je veux parler de quelque chose qui est une liste, parce qu'en scheme, je ne parle que de liste, et donc je souhaite avoir un moyen de dire, attendez, ce truc-là, je le prends comme une liste, c'est-à-dire une donnée, je ne souhaite pas le considérer comme un programme. Alors, ce mécanisme-là est un mécanisme qui est celui de la citation, et en anglais, citer se dit quote, to quote, ou a quotation pour une citation. Et donc le mot quote, effectivement ici, est une nouvelle forme spéciale qui dit la chose qui se trouve ici doit être considérée comme une donnée. Et donc par exemple, rappelez-vous, on a vu la fois dernière des itérateurs, comme par exemple de dire tiens, j'aimerais bien savoir ce que donne la fonction carré sur la liste 1, 2, 3. Et donc j'avais écrit la liste 1, 2, 3 en la calculant, par exemple, en faisant ceci. 1, 2 et puis 3. Eh bien, là, maintenant, grâce à la citation, je vais pouvoir citer la liste 1, 2, 3 sans avoir à la calculer explicitement comme ça. Il me suffit de remplacer ceci par dire la liste 1, 2, 3. Et je dis, je parle de quoi? Quote, je cite la liste 1, 2, 3. Et ce faisant, en fait, donc en écrivant map square tatata fermante, je dis, je demande à appliquer sur chaque élément de la liste de second argument la fonction carré sur chaque élément de la liste de second argument, cette liste de second argument étant la liste que je cite, à savoir 1, 2, 3. Et donc vous voyez que là, il n'y a aucun calcul, je n'ai pas besoin, je représente directement la liste sous la forme, c'est de cette liste-là que je parle. Simplement, le problème, c'est que pourquoi ai-je besoin de quote? C'est parce que si j'avais écrit naïvement map de square de 1, 2, 3, là, cette graphie-là dit, mais attendez, ça c'est un programme dans lequel j'applique la fonction map sur les deux arguments qui sont la fonction carré et le résultat de ce programme-ci, et le résultat de ce programme-ci, c'est la fonction 1 qu'il faut appliquer sur 2 et 3, mais 1 n'est pas une fonction. Donc ceci, manifestement, n'est pas une graphie que je peux prendre pour dire je parle de la liste 1, 2, 3. La graphie que je prends, c'est de prendre cette nouvelle forme spéciale qui s'appelle quote, et qui dit ma valeur, puisque tout programme a une valeur, donc quote est une citation, la valeur d'une citation, c'est le texte cité pris à la lettre, au pied de la lettre. Et le pied de la lettre de cette citation, c'est de dire, je suis la liste 1, 2, 3. Alors, voilà en gros la théorie de quote, qui est finalement assez simple une fois qu'on a, comment dire, compris, qui est que on veut citer des listes, on veut les citer telles qu'elles apparaissent exactement comme des valeurs, et donc, pour les faire apparaître dans le contexte de programme, je les protège d'une certaine manière ou je les introduis par un marqueur spécifique qui dit « Attendez, je fais une citation », ça c'est un peu comme des guillemets ouvrants, qui disent « Voilà, je parle de la liste 1, 2, 3 ». Bien, alors, j'ai dit que « to quote » en anglais c'était « cité »,« quotation » c'était une citation, et en fait « quote » c'est aussi le symbole apostrophe que l'on trouve en anglais. Il se dit aussi « quote ». Et en fait, quand vous regardez les mœurs anglaises pour les citations, les guillemets de citation anglais sont deux guillemets comme ça et deux guillemets comme ça avant et après. Et là, vous mettez le truc. Et Scheme a pris, ou plus justement Lisp, son ancêtre, a pris en 1959 l'idée de dire, eh bien, au lieu d'écrire ouvrante, Q-O-T-E blanc, la chose que l'on veut citer et ensuite fermante, on peut avoir une abréviation beaucoup plus simple à écrire qui est quote, l'expression juste derrière. Alors, au lieu de taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères, on n'en tape qu'un seul en disant « quote, expression ». Ça se lit de la même manière, ça se prononce « quote, expression » et ça se prononce « quote, expression ». Donc, dans les deux cas, on est, je dirais, cohérent et simplement, on a une graphie très simple pour dire « je parle de la liste 1, 2, 3 ». Si je reprends mon exemple qui est ici, en fait, je peux réécrire cette deuxième ligne-là simplement en disant c'est map appliqué à la fonction carré square et quote 1, 2, 3, fermante, fermante. Et du coup, là maintenant, comme ce symbole, en fait, n'use pas beaucoup d'encre, vous avez bien l'idée que vous appliquez la fonction carré à tous les termes de la liste 1, 2, 3. Et donc, vous avez à la fois donc un nouveau concept qui est la citation d'une liste, qui permet de parler d'une liste sans avoir besoin de la construire avec des programmes qui font des listes, des cons, etc. Et un coût syntaxique minimal, puisqu'en fait, il suffit d'écrire une petite apostrophe devant pour dire ben, « je parle de cette liste-là ». Donc voilà en gros le mécanisme de citation, et le mot « quoi » qui est là dit « ma valeur, c'est en fait la chose qui est citée juste derrière moi ». Et c'est tout. Alors, le mécanisme est assez simple, ça vous permettra surtout lorsque vous écrirez des exemples de tests, de pouvoir maintenant mentionner des listes directement à partir de leur, je dirais, valeur et en les précédant par une apostrophe, plutôt que d'avoir à les construire par des longues séries de listes, 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 listes. Vous les écrivez telles quelles et vous les manipulez telles quelles aussi. Alors, ça, c'est donc quelques exemples. On utilise la forme quote, en fait, principalement pour les structures de données qui risquent de poser une ambiguïté. C'est-à-dire que, vous voyez ici que quote 2, vous avez dit, je parle de la constante 2. Mais quote 2, en fait, vous pouvez aussi l'écrire quote 2, et ça se prononce exactement pareil, mais quote 2, c'est aussi équivalent à écrire 2, parce que vous savez bien que quote 2 dit, j'ai pour valeur la chose citée, c'est-à-dire 2, mais 2, le nombre tout court, a pour sémantique que la valeur d'un nombre, c'est lui-même. Donc 2 a pour valeur 2, et quote 2 a pour valeur la chose citée, à savoir 2. Les deux mécanismes sont différents, mais tous deux, en fait, ont pour valeur le nombre 2. Ça veut dire qu'en général, on ne quote, comme on dit dans le jargon, on ne préfixe d'une apostrophe que les seules choses qui risquent d'être ambiguës, et les choses qui risquent d'être ambiguës, c'est effectivement les listes, parce que les listes risquent d'être prises par des programmes et non pour des choses, pour des constantes de données. Alors regardons d'autres exemples. Un symbole, si vous écrivez A tout court, ça veut dire donnez-moi la valeur de la variable qui s'appelle A. D'accord ? Maintenant, si vous voulez dire « je voudrais imprimer A », par exemple. Si vous voulez imprimer A, vous pouvez écrire quelque chose comme par exemple « display A ». Mais si vous écrivez « display A », le sens de ça, c'est de dire « appliquez-moi la fonction qui est valeur de la variable qui s'appelle « display », c'est la fonction d'impression, et vous me l'appliquez sur la valeur de la variable qui s'appelle A ». Donc ceci a très peu de chances d'imprimer A. Ça va imprimer, si A vaut 3, ça va imprimer 3 par exemple. Par contre, si vous voulez vraiment imprimer A, la bonne solution consiste à dire j'imprime A. Et là, la valeur de ce truc-là, c'est A, et donc j'imprime A, et le résultat de display n'a aucun intérêt. Donc ceci imprime A, ceci va probablement imprimer quelque chose que je ne connais pas. Alors, lorsque j'ai un symbole, je suis obligé, si je veux parler du symbole, de le quoter comme ici, pour parler du symbole, parce que si je ne mets pas le quote qui est là, alors je parle de la valeur de la variable qui a pour nom ce symbole-là. Donc faites attention, quand on parle de X, en fait, dans tout le discours, des programmes, X représente la valeur de la variable X. Maintenant, si je dis je veux imprimer un X, eh bien je suis obligé de quoter pour dire non, je veux imprimer un X, indépendamment de la variable qui s'appelle X. Alors, donnons quelques exemples ici. Par exemple, cons, quote A, quote la liste vide, permet de dire, fabriquez-moi une liste qui contient A en premier terme et la liste vide en second terme. Et donc, la valeur, c'est la liste qui contient A. Et là, vous voyez que, au lieu d'écrire ouvrante, liste, fermante, vous pouvez simplement dire, je suis en train de parler de la liste vide, qui s'écrit donc comme ceci. Donc, ceci permet de dire, rajoutez-moi un A devant la liste vide, et ça vous fabrique la liste qui contient uniquement A. Si vous écrivez quote A1 à 2, vous obtenez en fait la même chose que quote A1 à 2, et ces deux programmes-là ont pour valeur la liste A1 à 2. Et puis quota de 3, eh bien en fait c'est la même chose que quota de 3, et les deux programmes ici ont pour valeur la liste 1, 2, 3. Donnons quelques autres encore programmes. Là c'était pour les symboles, mais j'en ai déjà parlé. Donnons quelques exemples de programmes qui utilisent ou n'utilisent pas la citation. Ici vous avez un contexte où j'ai écrit A tout court. A tout court veut dire donnez-moi la valeur de A. Le contexte dit mais A vaut 3, donc ce programme-ci vaut 3. Ici, je dis, dites-moi si A est une, A est une, est un nombre. Ok, je teste si la valeur de la variable A est un nombre. La variable A ici vaut 3. Est-ce que 3 est un nombre? Oui, 3 est un nombre, donc le résultat est vrai. Ici, je dis, A vaut 3, mais j'aimerais savoir si la valeur de A est un symbole. Ben non, puisque A vaut 3, 3 n'est pas un symbole. 3 c'est un nombre. C'est ce qu'on a vu auparavant. Donc le résultat de ce programme-ci, c'est faux. 3 n'est pas un symbole. Maintenant, je prends ce programme-ci, je dis A vaut 3, quote A. Quote A veut dire je cite A. Donc le résultat, c'est A. Et que on soit dans un contexte où A vaille 3 ou A vaille la liste vide, dans tous les cas, ce programme-ci ramène A. Dernier exemple, j'écris lettre A3 symbole quote A. Je suis dans un contexte où A vaut 3 et je dis est-ce que la chose qui est là, plus exactement la valeur de la chose qui est là, est un symbole. Cette chose-là, c'est un programme qui dit je vaux le symbole A. Le symbole A est un symbole, donc ce programme-ci ramène vrai. Donc voilà quelques exemples qui vous permettent de, je dirais, manipuler à la fois les citations et les listes. Alors, donnons quelques autres exemples. La liste 1, 2, 3 vaut effectivement la liste des nombres 1, 2 et 3. Maintenant, si j'écris liste 1, 1, 2, à 3, eh bien, ce programme-ci dit, faites-moi une liste de la valeur de la variable à 1, de la valeur de la variable à 2 et de la valeur de la variable à 3. Donc, tout dépend bien sûr du contexte qui est, quel est le contexte de manière à ce qu'elle sache quelle est la valeur de A1, de A2 et de A3. Alors, allons-y, regardons un premier contexte ici. Ce contexte dit A1 vaut 1, A2 vaut 2, A3 vaut 3, et bien la liste de A1, A2, A3, ça fait 1, 2, 3. Tout simplement. Voilà un autre contexte qui dit A1 vaut 1, A2 vaut 2, A3 vaut 3, mais maintenant le programme c'est quote A1, A2, A3. Quote dit, je suis une citation, donc je cite la chose qui est derrière moi au pied de la lettre, donc le résultat c'est ouvrante A1, A2, A3. Et le contexte est absolument inopérant là-dessus, parce qu'on s'en fiche totalement. Alors, quelques exemples de programmes équivalents. Là, ici, j'ai écrit une citation assez longue, qui est une citation avec une liste de couples avec un nombre et un symbole. Eh bien, cette citation tout entière que j'écris ici, je peux l'écrire aussi sous la forme d'une liste que je construis explicitement, dans laquelle je dis, tu construis une liste de 1, 2, 3 termes, où le premier c'est 1i, le deuxième c'est 2, 2i, et le troisième c'est 3, 3i. Je peux aussi dire, mais attendez, là je vais la construire entièrement. C'est une liste qui contient 1 et i, et une liste qui contient 2 et 2i, et une liste qui contient 3 et 3i. Et si vraiment je suis flemmard, alors j'ai plus qu'à dire, donc tous ces programmes-là valent exactement la même chose, et comme je suis flemmard, en fait je peux remplacer le ouvrante quote blanc et le fermante ici par simplement une apostrophe devant. Donc vous voyez en fait qu'on a un mécanisme de citation, d'expression pouvant être assez compliqué avec des milliers de parenthèses ouvrantes et des milliers de parenthèses fermantes. Il me suffit de mettre une apostrophe devant pour que ça soit considéré comme une expression symbolique complète. Bien, j'ai terminé sur la citation. C'est surtout en fait beaucoup utilisé quand vous écrirez des formes vérifiées de tests pour travailler sur des choses, plus complexes que les petits exemples que vous fabriquez avec des listes explicitement. Donc maintenant, on va passer à une autre structure de données qu'on appelle les NUplets. Alors, les NUplets, c'est un mot qui est une généralisation de, quand vous avez deux choses, vous dites que vous avez un doublet. Quand vous en avez trois, vous avez un triplet. Quand vous en avez quatre, vous avez un quadruplet. Quand vous avez cinq, vous avez un quintuplet. Et donc, la généralisation, c'est que on parle de NUplet pour un ensemble de N valeurs. Donc, le mot NUplet est effectivement la généralisation permettant de dire, je parle d'un ensemble de n valeurs. Donc le nuplet est une structure de données, c'est-à-dire un regroupement de données que l'on veut traiter comme un tout, comme une unité, et ce regroupement, en fait, sert surtout lorsque l'on a des données de types différents qu'on veut manipuler ensemble. Alors prenons un exemple. Ici, vous avez on suppose que j'ai le type note. Le type note, c'est les notes de 0 à 20, des nombres de 0 à 20 que je souhaite manipuler. Et je veux, par exemple, manipuler les trois notes qui caractérisent souvent les étudiants pour un cours donné, à savoir la note de TP, la note de CC, de contrôle continu, et la note d'examen final d'un étudiant. Eh bien, je peux faire un nuplet en disant, donc qui est ici en fait un triplet, qui est un triplet de trois notes, note, note, note. Et donc ça, c'est la graphie du type un triplet de trois notes, c'est-à-dire note, croix, note, croix, note, si je considère que croix est l'opérateur du produit cartésien. Donc nuplet en fait, vous pouvez relier ça à vos expériences mathématiques en sens que ça correspond au produit cartésien. Et on n'est pas obligé de faire des produits cartésiens sur des ensembles de même nature. Je peux faire un produit cartésien, comme par exemple ici, entre les entiers naturels, les chaînes de caractères et les triplets de notes. Je fais un produit cartésien et donc un point particulier, donc un nuplet ici, est un assemblage de quatre choses. Ces quatre choses étant un entier naturel, une chaîne et un triplet de trois nombres qui sont compris entre 0 et 20. Donc vous voyez que non seulement je peux faire des nuplets homogènes qui contiennent le même type de données, mais je peux faire des nuplets hétérogènes dans lesquels j'ai des données de type ici nombre, des données de type chaîne et des données de type triplet de notes aussi. Donc l'idée en fait est d'arriver à manipuler un étudiant comme un tout qui a un nom, un prénom, un numéro de dossier et une série de trois notes pour un cours de notes. Donc l'idée là, c'est de passer maintenant non plus à des simples listes de nombres ou des listes d'images ou des listes de booléens comme vous avez manipulé dans les exercices précédents, mais de passer à des structures de données plus riches où je suis capable de mélanger maintenant des chaînes, des nombres, des entiers, des images, des photos, tout ce que je peux souhaiter de n'importe quoi. Donc la structure de données qui permet d'agréger ensemble des données qui ne sont pas forcément de même type, c'est la structure de données qu'on appelle le nuplet. Alors, on va s'arrêter un instant sur les nuplets pour passer encore à une étape au-dessus, à une autre structure de données qu'on appelle les listes d'associations. Les listes d'associations, comme leur nom le disent, sont des listes. Simplement, au lieu de contenir n'importe quoi, elles contiennent des associations, les associations étant eux-mêmes des doublets formé d'une clé et d'une valeur. Donc l'idée d'une liste d'associations, c'est que donc c'est une liste qui contient des nuplets, clés, valeurs. Alors je vous donne, voilà des exemples d'associations. Ici j'ai associé une chaîne de caractères à une chaîne de caractères, le mot chat en français, le mot chat en anglais. Ici j'ai associé des nombres avec des nombres. Et je peux associer ça, par exemple ceci pourrait être considéré comme un numéro d'étudiant et ça comme étant, je ne sais pas quoi, un rang dans la cohorte des étudiants. Et je peux faire des associations comme par exemple entre un nombre et une chaîne de caractères, comme par exemple 192 c'est Virginie et 567 c'est Paul. Donc vous voyez que dans les listes d'associations, j'ai des clés qui sont dans le premier terme ici et des valeurs qui sont le second terme qui se trouve ici. L'idée des associations, c'est que vous savez que pour représenter les fonctions, il existe, et je parle là en mathématiques, il existe deux façons. Il y a ce qu'on appelle les énumérations et les compréhensions. C'est exactement la même chose quand on définit des ensembles, les fonctions étant des sortes d'ensembles très particulières. Définir les choses par énumération, c'est définir tous les cas possibles. Par exemple, si je parle de la fonction qui à 0 associe le nombre 1 et à 1 associe le nombre 2 et rien d'autre, j'ai défini une fonction, c'est une fonction partielle sur l'ensemble des entiers, elle est définie sur deux points, à savoir f de 0 égale 1 et f de 1 égale 2. Point barre, j'ai terminé. Ça c'est une définition qu'on appelle par énumération parce que j'ai énuméré tous les cas possibles. Vous avez une autre définition, un autre type de définition qui sont ce qu'on appelle les définitions par compréhension. Les définitions par compréhension sont les seules qui permettent de manipuler des ensembles infinis. On définit les choses par compréhension lorsqu'on est capable d'expliciter comment ça se calcule. Par exemple, lorsque vous dites « je prends la fonction f de x égale 1 moins x », vous avez défini une fonction et vous l'avez définie par compréhension parce que vous l'avez définie sur l'ensemble des x réels. Vous voyez bien que quand la fonction f de x égale 1 moins x ne peut pas être définie par énumération, parce qu'il faudrait dire f de 0 égale 1, f de 1 égale 0, f de 1,5 égale 1,5, f de 3 quarts égale 1 quart, et comme il y a un nombre infini de valeurs en entrée, il y a un nombre infini de valeurs en sortie, je ne pourrais pas toutes les énumérer. Donc, il y a ces deux types de définitions. En fait, souvent, on est obligé de manipuler des fonctions qui ont les deux types de définitions, et les associations permettent justement, en fait, de représenter ce qu'on appelle la carte d'une fonction, à savoir l'espace des points et l'espace des images de ces points par la fonction. Donc vous pouvez voir par exemple ceci comme la définition d'une fonction par énumération où on dit f292 est égal à Virginie et f267 est égal à Paul. Vous avez défini une fonction par énumération sur deux cas particuliers. Donc les listes d'association, en fait, encodent d'une certaine manière les fonctions que l'on peut définir par énumération. Alors, regardons un petit peu plus. Ça, c'est un exemple un peu compliqué. Je reviendrai dessus après, si on a le temps. Donc, regardons maintenant des listes d'associations un peu plus amusantes. Donc, ceci est une liste d'associations, ça aussi et ça aussi. La première liste d'associations dit, rappelez-vous qu'une liste d'associations, c'est une liste d'associations. Donc, je fabrique une liste et maintenant, je mets une association, deux associations. Et vous avez vu que les associations sont représentées par des doublets avec une clé et une valeur. Et ce doublet avec une clé et une valeur, je les relie ici par une fonction list qui dit voilà la clé, voici la valeur. Vous avez ici un petit dictionnaire qui dit que chat se transforme en cat et chien se transforme en dog. Vous auriez pu écrire grâce à quote la même chose ici, un programme équivalent, c'est liste de quote la première association, quote la seconde association. Et comme maintenant, quote, on sait que ça peut porter sur des choses beaucoup plus complexes que des simples listes, on peut écrire simplement, la liste d'associations tout entière que j'ai calculée ici, peut s'écrire, quote, association chat donne cat, association chien donne dog. Donc voilà trois graphies particulières qui calculent toutes la même liste d'associations, à savoir un dictionnaire qui contient deux mots, chat et chien. Alors, voilà donc, comment dire, une liste d'associations, un petit dictionnaire tout bête, et voici